Écoutez, je reçois des informations maintenant, écoutez.
Le feuilleton va recommencer pour quelques épisodes, capitaine.
Nous ne sommes pas des robots, Sébastien, mais des êtres vivants.
Voilà le pied d'Armstrong. Au centre et en bas de votre écran. Et il marche maintenant.
On peut dire aujourd'hui que la science-fiction est bel et bien partout.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est Plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par L'Œil de Chéri. Cette semaine, nous allons parler de Fallout, une des meilleures séries de science-fiction de ce début d'année, disponible sur Amazon Prime. Elle a été créée par Geneva Robertson-Dwoway et Graham Wagner. Elle est adaptée d'un jeu vidéo mythique et nous allons écouter maintenant sa bande-annonce avant de laisser parler un spécialiste. On écoute maintenant.
Je suis consciente que j'ai eu une vie relativement confortable.
Stop, Lucie!
Rentrez chez vous. Les habitants d'Abri sont une espèce menacée ici. Je ne vous crois pas capable d'adopter le comportement nécessaire pour survivre dans ce monde. Si vous tenez à rester ici, alors il faudra vous adapter.
Voilà, c'était un extrait de la bande-annonce de Fallout, une série en 8 épisodes avec un sacré casting. Il y a Ella Purrell, Aaron Moten, l'énormissime Walton Goggins et l'incontournable Kyle MacLachlan, anciennement Paul Atreides, dont Dune. C'était le moment où je pouvais enfin caser Dune comme quasiment presque toutes les émissions. Pour analyser cette série, nous avons demandé à un spécialiste de Fallout de venir sur notre podcast. Erwan Lafuriel, bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Je vous en prie, vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef d'IGN France avant de devenir le patron d'IGN France. Mm-hmm. Vous suivez donc bien l'actualité du jeu vidéo et surtout vous avez écrit chez Sœur d'édition Fallout, histoire d'une mutation, création, univers, décryptage. C'était en 2017. Il s'est passé pas mal de choses depuis pour la franchise.
Pas mal de trucs, oui.
On va y revenir ensemble, Erwan. Déjà, ma première question, pourquoi Fallout, le jeu vidéo qui est sorti en 1997, est culte pour les amateurs de jeux? Alors, je vais juste resituer. À l'époque, c'était un action RPG ou un RPG plutôt produit par Black Isle Studio. Il était sorti sur PC et sur Mac. Ça doit rappeler, je pense, des souvenirs à certaines personnes sur le podcast. Pourquoi ce jeu en 97 est une nouveauté, quelque chose qui quand même a marqué durablement les esprits pour pas mal de joueurs?
Alors c'est un jeu, c'était un RPG pur et dur, hein, donc au tour par tour. C'est avant tout, je pense, son univers qui a vraiment marqué les joueurs. Cette patte du rétrofuturisme liée au post-apo style Mad Max qui a vraiment créé l'originalité et avec derrière tout ce qui fait un bon RPG en général, c'est-à-dire des bons dialogues, une bonne histoire, des choix importants dans les dialogues qui mènent à des différentes conclusions. Tout ça, c'est des éléments qui ont vraiment marqué les joueurs et qui ont été repris après par la suite à différents niveaux en fait, ce qui a créé certaines divisions dans la communauté au fur et à mesure qui se poursuivent encore maintenant même avec la série en fait.
Oui, alors pour un peu recontextualiser, à l'époque, dans les années 90, il y avait les fans de jeux vidéo, de RPG, donc de jeux de rôle japonais. C'était l'année de Final Fantasy VII qui a été une révolution et je pense un traumatisme pour beaucoup de joueurs de l'époque. En parallèle, il y avait aussi les jeux de rôle américains qui étaient sur PC et sur Mac, on pouvait déjà avoir plusieurs fins, on pouvait déjà avoir des personnages qui mouraient, c'était quand même assez moderne. Et puis il y a eu une espèce de basculement, l'âge d'or du jeu vidéo japonais s'est progressivement éteint au début des années 2000, et c'est avec l'arrivée d'un studio qui était déjà connu et qui avait déjà eu du succès comme BioWare avec Mass Effect, que on va dire que le jeu de rôle américain a vraiment pris le dessus et maintenant est devenu carrément incontournable. Et même les jeux vidéo japonais s'inspirent progressivement quand même au fur et à mesure des jeux de rôle américains, mais c'est pas forcément gagné. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter les créateurs de Fallout? C'était qui en fait derrière ces jeux vidéo?
Alors c'est pas un jeu vidéo fait dans un garage, mais presque en fait. C'est un jeu vidéo fait à la pause déjeuner de chez Interplay, qui était une grosse boîte d'édition à l'époque, hein, pour les jeux, toutes sortes de jeux à succès, des jeux à licence, de grosses licences. Et l'initiateur, c'est Tim Kaine, un développeur qui était sur un jeu à faire son petit salaire pour gagner sa vie, mais qui ne l'intéressait pas trop. Et donc, il a passé beaucoup de temps sur ses heures creuses pour développer Fallout, qui est passé par plein d'étapes différentes. Hein. C'est un vrai foutoir, ce développement. Et il payait des pizzas aux autres développeurs d'Interplay pour venir donner des idées, venir bosser avec lui sur Fallout. Et finalement, ça a pris de l'ampleur. Et puis, de plus en plus de monde à Interplay s'y sont intéressés. Ils ont réussi à le sortir. C'est quasiment un miracle. Hein. Quand on y repense à ce développement, c'est un miracle qu'ils aient fait un jeu.
Parce que c'était trop mal organisé, et il n'y avait qu'une personne derrière, c'est pour ça ?
Il y a eu plusieurs personnes, parce qu'il y a quand même des pontes qui se sont greffées. Il y a eu Fergus Urquhart, par exemple, qui a aidé la production. Et il y a eu notamment Leonard Boyarsky, qui est un pilier extrêmement important de Fallout, puisque c'est lui qui a eu l'idée du rétrofuturisme et qui l'a imposé au reste de l'équipe en plein cours de développement du jeu. C'est-à-dire qu'il a fallu revoir le jeu pour adapter toute l'histoire à ce rétrofuturisme de la science-fiction vue par l'Amérique des années 50. Et puis bien sûr plein d'autres personne. Alors on n'a pas tous les témoignages, c'était il y a longtemps, les gens ont oublié, les gens se contredisent parfois, mais on va dire que le pilier c'était Tim Kaine au début. Et ensuite ça a vraiment très vite changé, puisque Fallout a été un très gros succès. Et Interplay a voulu reprendre ce succès très rapidement pour faire plus d'argent et sortir Fallout 2 rapidement, et ça a mis un peu le bazar dans les équipes, et il y a eu des changements d'équipe.
Fallout 2 est peut-être un des jeux les plus populaires de la franchise Fallout. C'est souvent celui qu'on parle en exemple. Alors, pareil, c'est un jeu qui était très bien noté à l'époque, hein, par aussi la presse de jeux vidéo française. On parle de Baldur's Gate 2, évidemment, et on parle aussi de Fallout 2. C'est un peu les deux RPG de l'époque. Pourquoi ce Fallout 2 a aussi plus. Qu'est-ce qu'il était dit, en quoi il était différent du premier épisode, alors qu'il y avait quasiment pas longtemps, en fait, pas beaucoup de temps de production entre les deux?
Non, le développement a été un cauchemar, une fois de plus, pour les nouvelles équipes qui ont fondé Black Isle pour le créer. Et on a eu droit à l'excellente écriture de Chris Avellone, qui a permis de retrouver vraiment toute la patte Fallout, c'est-à-dire que maintenant, les ingrédients étaient posés et ils ont réussi à les reprendre correctement. Il y a eu bien sûr des modifications qui n'ont pas plu à tout le monde. Par exemple, l'humour a été largement développé. Donc c'est pour ça que la première scission s'est créée avec Fallout 2 entre les fans du premier et les fans du deuxième. C'est vraiment sur l'humour que ça a porté. L'histoire était peut-être un petit peu moins intéressante que la première, mais elle était sympa aussi. Et au final, ça a quand même très 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 bien marché, alors que ça reprenait le même moteur quasiment. Il y avait très peu d'évolution au final, mais c'était une version 1.5 quoi, qui fonctionnait très bien.
Vous avez utilisé le terme de recette. Alors, c'est quoi pour vous la recette de Fallout ?
Alors, bah, y a le rétrofuturisme qui est vraiment hyper important. Il y a l'hyperviolence. Ça, c'était dès le début. La personne que j'ai citée, Urquhart, avait écrit une note d'intention où il expliquait qu'il fallait qu'ils allaient choquer les gens, qu'ils allaient mettre le maximum pour vraiment choquer les gens. Et ça, c'est resté, mais aussi à degrés divers, en fait, avec la technique, les moteurs qui changent, la 3D. L'hyperviolence, ça n'a jamais été aussi bien rendu, moi, je trouve, que dans Fallout 1, où c'était vraiment des exécutions, des coups critiques au pixel près, visuellement. Mais je trouve qu'on retrouve ça dans Fallout, la série. Voilà, où on a des trous dans les gens et ça, c'est bien.
on va y revenir, évidemment. On va mettre un premier extrait du jeu vidéo. Il s'agit du lancement de Fallout 4, qui en dit en fait un peu plus sur l'imaginaire du monde de Fallout. Et après, on va continuer un peu notre analyse du jeu vidéo avant d'entrer dans la série.
La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21e siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077. À l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre.
Voilà, c'était... Un extrait, c'était la cinématique d'introduction de Fallout 4 avec « La guerre ne meurt jamais ». On est loin d'ailleurs dans cette ouverture de jeu de l'humour et du ton de Fallout qui est beaucoup plus amusant, léger et en même temps un peu sordide par moment. Comment est-ce que vous analysez, vous, l'univers de Fallout qui a, et vous l'avez très bien dit, la particularité d'être une uchronie rétro-futuriste post-apocalyptique qui semble être figé dans les années 50, mais pas que.
Alors, les années 50, c'est vraiment avant la guerre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit de Fallout 1 à Fallout 4. Déjà, le premier était très sombre aussi. Hein. La fin aussi, c'est quelque chose qui a marqué les joueurs. On ne va pas la spoiler, mais elle était extrêmement sombre, extrêmement négative, même si on gagnait le jeu. C'est quelque chose qu'on a perdu, qu'on n'a jamais vraiment retrouvé, en tout cas pour le scénario principal. Pour tout ce qui est un peu annexe, on trouve des choses bien violentes, faut bien le dire. Maintenant, le rétrofuturisme, dans les premiers jeux, il appartenait au passé. Et quand on allait, quand on jouait, on découvrait certains éléments des années 50, dans l'architecture brutaliste, enfin des choses assez intéressantes. Dans Fallout 2, il y avait les casinos un peu avec la mafia des années 30. C'est surtout Bethesda qui a développé après Fallout 3 et dans Fallout 4 le fait que le rétrofuturisme soit plus présent après la fin de la guerre. Donc des tenues vestimentaires, des façons d'être, le look des personnages, des bâtiments, tout ça. Et c'est un peu problématique pour moi en fait, parce que le rétrofuturisme, plus tu le développes, plus tu mets des failles, tu crées des failles dedans. Donc c'est vraiment intelligent de la part de Bethesda d'avoir développé ça, parce que c'est visuellement très impressionnant et c'est très intéressant et ça fait la marque Fallout. Mais en même temps, plus tu le développes, plus tu crées des problèmes par rapport au lore, par rapport à la logique de l'univers. Et on sait très bien comment fonctionne un monde post-apo. C'est censé rester post-apo. Plus on le développe, ce n'est plus du post-apo finalement. Si on commence à construire, si on commence à passer à une nouvelle phase, c'est plus du tout la même chose. Donc c'est ce qui a été un peu reproché, je trouve, je pense à Fallout 4, de trop miser sur le rétrofuturisme dans le jeu par rapport au précédent.
Vous avez parlé du ton humoristique de Fallout qui arrive au deuxième épisode. Comment vous l'analysez, ce ton humoristique, alors ?
Alors, ça a toujours été drôle. Hein. Le premier aussi était drôle. Hein. Mais c'était un humour différent, plus sombre et plus... C'est de l'humour noir et moins de références. En fait, le 2 apportait beaucoup plus de références, de clins d'œil à la pop culture. Notamment, on se souvient tous des références au Monty Python, par exemple. Il y avait beaucoup d'événements qui pouvaient arriver, comme ça, on voyait des références au Sacré Graal et tout ça. Mais à l'époque, voilà, c'était fantastique. À l'époque, on voyait des références au Monty Python, c'est des génies, c'est fantastique, c'est génial. Maintenant, on s'en fout un peu, il y en a partout. C'est permanent, les mélanges entre les univers et la pop culture. Donc c'est devenu pas problématique, ça dépend pour qui en fait. Il y en a qui aiment beaucoup ça. C'est pour ça que dès New Vegas et après, je pense, pour Fallout 4, ils ont permis une option qui permet de... ils ont mis une option pour qu'on puisse les zapper en fait, tout simplement. Soit ils sont dans le jeu, soit ils ne sont pas, on choisit au début. Et voilà, comme ça, ils ont réglé le problème de ceux qui n'aimaient pas cet humour.
Parce qu'on peut parler d'un humour absurde, en fait. D'ailleurs, la série joue beaucoup sur ça, sur cette espèce d'humour absurde, avec soit des personnages débiles, quoi, je dirais peut-être pas débiles, mais soit avec des personnages stupides profondément, soit avec des situations qui semblent totalement incroyables ou grotesques. J'ai l'impression quand même qu'on joue beaucoup sur ce genre d'humour-là.
Oui, ça fait partie de... Quand on met de l'hyperviolence, il faut mettre de l'humour comme ça à côté pour équilibrer les choses. Et j'ai pas trouvé l'humour trop exagéré dans la série Fallout. Il n'y a pas de référence à d'autres choses, en fait. Il n'y a pas de... ils vont pas faire un clin d'œil à The Boys ou... ou des choses comme ça. Donc ça aurait été problématique. Mais effectivement, la série est très drôle. Moi, j'ai éclaté de rire devant certains passages. Et elle fonctionne très bien. Le trio de personnages a une excellente dynamique, qui reprend d'ailleurs en fait les trois versions d'un personnage de jeu de rôle qu'on peut créer. Hein, le méchant, le gentil, et celui qui est un peu entre les deux. Et c'est vraiment trois visions de la manière de jouer un jeu Fallout. Et non, l'humour est plutôt bon. Les gags sont bons, ils sont pas trop appuyés. On est loin de l'humour Marvel, en fait. Voilà. On a dépassé le stade des vannes. On est dans des gags de situation. Et des gags visuels et qui fonctionnent très bien avec l'humour, l'univers de Fallout, parce qu'une partie de cet univers est fait pour ça.
Beaucoup de joueurs actuellement louent Fallout 3 et surtout Fallout New Vegas. Est-ce que vous pouvez un peu juste expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, l'espèce de transition qu'il y a eu entre les deux premiers des années 90 très marquée de leur époque, et puis on va dire cette transition par la 3D, aussi par le rachat du studio.
Oui, bah, c'est passé de, effectivement de Interplay à Bethesda, avec une longue période hein, de problèmes légaux autour de la licence. Et forcément, en 2010, il fallait que ça soit en 3D sur Xbox, on ne pouvait pas faire autrement. Bethesda a quand même fait des efforts pour que ça reste un RPG, un jeu de rôle, avec les options de tour par tour, et avec notamment le VATS qui permet de faire une pause et de cibler les ennemis. Ils ont vraiment fait des efforts pour concilier l'ancien gameplay et le nouveau. L'ancien gameplay n'a jamais été fantastique non plus, même au tour par tour. C'était un sacré bazar, ça a été développé un peu à l'arrache. Il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas, qui étaient mal équilibrées. Donc même si on n'aime pas forcément le style, si on n'a pas apprécié la transition, on ne peut pas dire qu'elle est mauvaise en fait. Le résultat est tout à fait correct à plein de niveaux différents. Qu'est-ce que ça a changé vraiment? En gros, pour Fallout 3, je pense que le plus gros problème était la taille du jeu. Voilà, on était sur les anciennes consoles, on n'avait pas des mondes ouverts absolument gigantesques comme on a maintenant. Donc ça a vraiment joué. Fallout 4 a un peu réglé ça. Le ton était plus sombre dans Fallout 3. Il y a eu des transitions comme ça qui fait qu'à chaque étape... La communauté a trouvé son jeu préféré, en fait. C'est rarement Fallout 4, hein, faut bien le dire. Celui qui fait le plus référence, c'est New Vegas. Voilà, c'est celui qui met un peu tout le monde d'accord, plus ou moins, pour dire c'est quand même le meilleur, parce que, justement, il réconcilie le ton, l'humour, l'écriture des premiers Fallout avec tout ce que Bethesda a apporté en termes de jeu, de gameplay, d'action, d'univers. Et là, vraiment, vraiment, tout le monde veut un New Vegas 2. Ça, c'est clair. Après, il faut mettre les bonnes personnes à l'écriture, surtout.
Attention à votre micro, Erwan. Juste décalez-le un tout petit peu pour pas qu'entendre les bruits de votre barbe. Voilà, parfait. sur le micro.
J'aurais dû me raser.
Qu'est-ce que disent les jeux politiquement et qu'est-ce que disent les jeux sur l'Amérique, puisque on peut quand même voir une grande métaphore autour des États-Unis dans ce jeu. D'ailleurs, j'ai cru entendre, puisque j'ai lu un petit peu pour préparer cette émission, qu'il est prévu même pour la série qu'il n'y ait pas que Fallout ne se passe qu'aux États-Unis, puisque avant tout c'est une satire de l'Amérique. Qu'est-ce que vous analysez?
Alors oui, j'ai lu effectivement Todd Howard dire que, le patron de Bethesda maintenant, dire que ça resterait aux États-Unis. Je pense que c'est effectivement à peu près normal, puisque on parle quand même d'un conflit global et c'est difficile, je pense, pour des auteurs je pense que c'est difficile pour ces auteurs d'inculper, on va dire, d'autres pays dans cette histoire. C'est plus facile de cibler les États-Unis et de faire une autocritique, en fait. Et même si cette histoire, on l'a vu là dans la cinématique, elle est mondiale et elle correspond beaucoup à ce qui se passe en ce moment depuis des années. Donc on est vraiment en train de vivre ce que vivent les gens de 2077 dans Fallout, c'est la pénurie des ressources mondiales, tandis que les gens cherchent à développer la fusion, hein, c'est vraiment ce qui est dans le jeu aussi, sauf que la fusion a été développée et n'a pas été partagée a priori, ce qui a créé des tensions en plus. Je vois pas trop où pourrait aller d'autre en fait. Ils n'iraient pas en Chine, qui est censé être le gros ennemi. Ils n'iraient pas en Europe, qui est censé être rasé, en fait. Donc autant rester aux États-Unis, puisqu'il y a toute cette critique de la société américaine, de la surconsommation, de l'apparence, de tout un tas de choses liées au divertissement et à la violence. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup de lore dans Fallout. Hein. Faut voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Les joueurs sont vraiment très à cheval sur le lore. et s'est développé toujours avec une certaine autocritique, en effet, de l'Amérique. Sauf que, bon, on va dire que pour les premiers, c'était un peu plus sombre, un peu plus autocritique. C'était fait par des libéraux en Californie, sur la côte ouest. Des années après, chez Bethesda, c'est quand même un peu plus conservateur, un peu plus posé. C'est plus une grosse boîte de la côte est qui sait écrire aussi des choses très intéressantes dans la narration des petites quêtes annexes, mais qui écrit moins bien sur le scénario principal, en fait.
On va revenir sur la série TV. Alors, on sent que vous avez apprécié, hein, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Comment vous analysez, vous, en tant que spécialiste de l'univers Fallout, cette série et ce qu'elle a essayé de faire ?
Alors, ils ont très bien joué leur coup, puisque, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans Fallout, et il y a encore beaucoup de choses à écrire. Il y a toujours des histoires à raconter. Les États-Unis, c'est grand. La timeline est super importante et il y a eu pas mal de gens qui ont râlé sur des petits soucis de timeline dans la série. Mais bon, on attend la saison 2 pour être sûr. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que effectivement, les deux premiers jeux étaient sur la côte ouest. Ensuite, Bethesda étant une société de la côte est, ils ont ramené l'action sur la côte est en mettant un petit peu de temps, histoire de faire tampon. Et ce que fait la série, c'est qu'elle revient sur la côte ouest pour raconter les événements qui se sont produits pendant ce temps, en fait, pendant que d'autres choses se passent sur la côte est. Donc ça, c'est vraiment intelligent. Ensuite, ils reviennent énormément sur la période d'avant la guerre. Ils expliquent énormément de choses. Et vraiment, pour les fans du lore de Fallout, ils expliquent des choses vraiment très importantes. Oui, il bluffe aussi des fois. Mais en gros, ça, vraiment, c'est une série qui montre bien le côté, qui introduit bien les gens dans l'univers de Fallout, avec trois personnages, avec une histoire sympa. Et bon, il y a certaines choses qu'il faut attendre quand on ne connaît pas la série de Fallout. Mais c'est aussi extrêmement intéressant pour les vétérans, autant que les nouveaux venus. Ils ont vraiment réussi à écrire pour les deux. Et ça m'a vraiment scié qu'ils aient vraiment apporté autant d'éléments importants à toute la saga, à tout cet univers, pour l'inclure avec les jeux. Voilà, c'est pas quelque chose qui est à côté, c'est pas quelque chose qui est à part, c'est beaucoup plus intégré à la série, à la saga en fait, que n'importe quoi d'autre, notamment 76 qui est un peu à part.
Donc la série débute en 2077, on va suivre, c'est le premier épisode et c'est les premières minutes de l'épisode, la fameuse attaque atomique qui va ravager les États-Unis. 200 ans après, nous allons suivre la jeune femme nommée Lucy qui va quitter son abri, l'abri numéro 33, pour aller sauver son père qui a été enlevé. Et donc elle va découvrir un monde ravagé, détruit, et il y a tout un jeu d'humour à raconter que cette jeune fille naïve, gentille, pure, qui a vécu dans une espèce d'utopie, dans un abri atomique, n'est pas du tout préparée au monde qu'elle va découvrir, qui est évidemment impitoyable, ultra-violent. Et donc c'est ainsi que commence cette aventure, un peu comme une quête initiatique. On va retrouver le fameux chemin du héros, là, de l'héroïne, théorisé par Joseph Campbell, hein. Donc le même chemin narratif qu'on retrouve dans Star Wars, dans Dune, voilà, dans d'autres, dans de grandes franchises. C'est un peu le monomythe, avec ce fameux mythe qui revient au fur et à mesure. Fallout va beaucoup se concentrer sur la fameuse société Vautech qui crée les abris. C'est la corporation, hein, où les riches ont pu se réfugier, c'est à peu près ça le principe. Riches et pas que, mais en tout cas ce qu'on comprend, c'est que les élus qui sont dans un abri et qui vivent dans une espèce d'utopie coupée du monde. Qu'est-ce qu'incarne cette corporation Vautech, selon vous, qui est quand même très mise en avant dans cette série ?
Alors, bah, c'est une grosse corporation, hein, qui regroupe beaucoup d'éléments qu'on retrouve partout, à tous les niveaux dans la société américaine, avant la fin du monde et après la fin du monde, puisqu'elle gérait absolument tout. Donc, pour moi, c'est la GAFAM de, c'est la GAFAM de, de cet univers, c'est une corporation ultralibérale qui est capable de, comme on l'a vu dans la série, de réfléchir sur l'avenir. Voilà, qui réfléchit sur le long terme. Voilà, c'est le capitalisme qui réfléchit sur le long terme, c'est la source du mal, hein, en fait. C'est evil. Le capitalisme qui réfléchit à court terme, bon, ça fait peur, mais on peut se dire que bientôt ça sera fini, on pourra renverser quelque chose. Vraiment, cette société où on voit tous ces gens se regrouper pour prévoir la fin du monde et ce qui se passera après et tout ça, c'est extrêmement flippant. Voilà, j'ai spoilé un truc là, j'aurais peut-être pas dû.
Non, non, mais on voit ce qui est intéressant avec Voltaire, c'est qu'en effet, et vous l'avez bien dit, et ça c'est amusant, c'est que au lieu alors c'est une société qui anticipe le monde détruit de demain et en même temps qui ne veut pas donner de solution, quoique, et ça c'est aux gens qui ont vu la série ou ceux qui regarderont la série de se faire une idée. La série va présenter, va être assez fidèle, on va suivre les abris, la compagnie d'acier, des pillards, des révolutionnaires, des cultes. À ce niveau-là, elle respecte totalement l'univers alias le lore. Vous l'avez utilisé plusieurs fois, peut-être ceux qui ne savent pas ce que c'est, le lore est devenu un peu le mot valise pour dire univers. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est, même si elle est très classique dans l'écriture, puisque finalement on retrouve un schéma avec trois personnages qui vont voir leur vie basculer ou se relier, et puis il y a évidemment un fort rebondissement à la fin. Enfin, on reste dans un schéma qui finalement me fait penser moi à une série comme Westworld, excellente série, surtout la saison numéro 1 qui est, moi je trouve, génialissime, qui a été imaginée par Jonathan Nolan, qui est lui-même à la réalisation de Fallout. On retrouve un peu ce scénario là
il a dit que Fallout avait aussi influencé Westworld, donc
voilà, ouais, donc on retrouve un peu cet imaginaire là. Moi ce que je voudrais avoir comme point de vue de votre côté, c'est que vous, en tant que fan de jeux vidéo et fan de Fallout, comment vous expliquez que le grand public qui n'y connaissait peut-être rien à cette licence a été séduit? Qu'est-ce qui fait que cette série fonctionne alors qu'il y a aussi d'autres séries très bien de science-fiction, mais celle-là a marqué vraiment les esprits?
C'est vrai que j'ai été surpris que... Enfin, après, Fallout 4 a vraiment lancé la série pour le grand public. Elle l'a vraiment portée au grand public, mais le grand public du jeu vidéo. Donc aller au-delà de ça, c'est encore une autre étape, et elle l'a fait. Ça m'a vraiment surpris, mais je pense que c'est simplement son identité unique, vraiment cette identité de Fallout, qui est ce rétrofuturisme, le post-apo, l'humour et le côté très noir. Tout ça, c'est une identité, une alchimie en fait, qui est utilisée à divers degrés selon les produits, mais pour la série, elle l'a parfaitement fait. Et c'est original, je veux dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas, j'aimerais être à leur place en fait, j'aimerais être là et découvrir ce que c'est Fallout avec cette série, parce qu'elle est excellemment bien faite et c'est totalement inespéré pour les fans en fait. Et donc on est vraiment, enfin personnellement je suis heureux pour tous les gens qui y découvrent.
Oui, on voit d'ailleurs que la série a tellement marché que les ventes se relancent. Beaucoup de gens retéléchargent ou achètent Fallout 3, New Vegas et surtout le Fallout 4, hein, qui reste un des derniers bons jeux, puisque le Fallout 76, qui est l'ultime jeu qui est sorti, a été une catastrophe et a été extrêmement critiqué par beaucoup, beaucoup de gens.
Il s'en est remis hein, depuis, mais...
Ouais, c'est ça. En vrai, ça fait partie encore de ces jeux maudits où le lancement est raté, et puis après, au fur et à mesure des ajouts et des modifications, ça va évidemment beaucoup mieux. Peut-être, ce qui est intéressant, et vous l'avez dit, on va revenir un peu dessus, c'est sur le fait qu'on a trois personnages qui incarnent trois types de joueurs. Donc il y a Ella Purnell, qui est excellente, qui joue Lucy McLean. Moi, j'ai adoré l'actrice et le personnage. Aaron Moten, qui est un écuyer de la confrérie de l'acier.
Je l'ai trouvé très bon.
Est également très bon. Et Walton Goggins, qui est la goule, alias Copper Howard, ancien acteur est devenu un espèce de chasseur de primes d'Esperados, lui qui jouait des cow-boys pour la télé ou le cinéma américain, et qui devient un vrai d'Esperados. Peut-être un mot sur les abris. Qu'est-ce qui représente les abris dans la série de Fallout ?
Alors, je crois que les spectateurs ont vite compris que les abris, c'est des endroits assez spéciaux. On a dit tout à l'heure qu'effectivement, elle sortait d'un abri, elle était naïve dans une sorte d'utopie. Ce n'est pas le cas pour tous les abris. Ils auraient pu très bien inverser les rôles et qu'elle soit la méchante qui sorte. Ça peut très bien arriver. Les abris, c'est une sorte... Dans les jeux vidéo, c'est une sorte de donjon du RPG, mais on n'y va pas pour du butin ou pour chasser des monstres, on y va pour découvrir une histoire, en fait. C'est découvrir un nouvel abri dans Fallout, c'est toujours un moment magique. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qu'est-ce qui a été l'histoire de cet abri ? Pourquoi il était là ? Quelle était la société qui était dedans ? Voilà, vous avez, avec les trois abris, le 31, le 32 et le 33 de la série, vous avez compris qu'il se passait des choses, qu'il y avait certaines expériences. Et il y en a énormément, et il y en a encore énormément à découvrir. Et ça, c'est un des grands plaisirs de Fallout, c'est découvrir les abris et ce qui renferme. Quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi chaque endroit, entre guillemets, en tout cas lieu comme un abri, est un système politique différent. On a une espèce de démocratie. Une espèce de démocratie, je le dis bien, dans la partie Abri 33, où il y a une communauté qui vote et qui a un système démocratique. On va passer par la confrérie de l'acier, qui, elle, a un système médiéval moyenâgeux, un espèce de culte, un peu comme un monastère avec des moines soldats.
Oui, c'est une des plus anciennes factions de Fallout qu'on connaisse. Eux, ils ont survécu, c'est l'armée qui a survécu, en fait... à l'apocalypse et qui s'est regroupé pour contrôler la technologie. Voilà. Et qui, au début, c'était avec les scientifiques. Et après, les scientifiques ont fait un peu n'importe quoi. Donc, ils ont massacré les scientifiques et ils ont dit bon, on arrête la science, on arrête les technologies, on regroupe tout, on confisque tout au peuple parce qu'il fait n'importe quoi avec. Et c'est devenu cette espèce de faction militariste et religieuse qu'on connaît, qui est très. Qui est toujours exactement comme Maximus, entre le bien et le mal, en fait.
Oui, ils sont là pour tempérer, et justement, on les voit, alors on est plutôt... Dans la série, joue entre les deux, et il y a tout un propos autour de la manipulation, évidemment, autour de ces espèces de... On pourrait dire ces policiers du futur, puisqu'ils font penser à une espèce de brigade qui est censée restaurer l'ordre et en fait, pas forcément.
Non.
Et qui joue pour ses propres intérêts.
Oui, c'est vraiment ses propres intérêts en premier. Oui.
On a ensuite Walton Goggins qui joue la goule. Alors, dans l'univers de Fallout, il y a des goules qui vivent en liberté et qui représentent, on va dire, l'anarchie. Finalement, la loi du plus fort, l'anarchie qu'on a dans l'univers.
Alors, pas tout à fait. Alors, du début à la fin de la saga, ce sont avant tout des pauvres airs. En fait, c'est les zombies de Fallout. La plupart sont sauvages et violents. Il y en a très peu qui ont gardé leur humanité. Il y a toute une histoire derrière avec des mutations. C'est assez complexe. Ça peut être du cas par cas. Ce qu'apporte la série est par contre assez bizarre. Là, c'est le plus gros problème que j'ai eu avec, c'est cette histoire d'avoir besoin d'une drogue pour ne pas sombrer dans la sauvagerie. Ça n'existe pas du tout dans les jeux. Et du coup, on a par rapport à d'autres personnages ghouls connus, comme Harold dans la série, qui est un personnage assez important aussi parce qu'on le voit dans plusieurs jeux, du 1 au 3 au 4. On n'a jamais entendu parler de ça avant. Donc ça fait un peu froncer les sourcils. Genre, c'est quoi cette histoire ? Pourquoi ils ont rajouté ça ? Mais bon, on va accepter ça. Et surtout ce personnage qui est de la goule, qui est extrêmement important, puisque comme un autre personnage de Fallout 4, il a connu l'époque d'avant la guerre. Donc ça permet de développer plein de choses des deux côtés à travers ce personnage. C'est devenu subitement un des personnages les plus importants de la série, de la saga.
D'ailleurs, saison 2, non, qui a été prévue, je crois.
Alors, la saison 2 est annoncée officiellement. Beaucoup de gens l'attendent parce qu'ils veulent une réponse par rapport à un événement qui se produit.
Au dernier épisode, et donc on ne dira pas.
Avant-dernier, qui n'est pas prévu dans la timeline. Et les fans de Fallout sont extrêmement précis sur la timeline. Moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Et j'attends de voir un peu l'explication. Voilà. Mais effectivement, la scène de fin tease quelque chose de très important qui forcément relance. Si elle avait baissé, hein, mais l'intérêt n'avait pas baissé, mais la fin relance encore plus l'intérêt pour la suite de Fallout et cette saison 2 voilà, qui va rejoindre un Fallout extrêmement populaire. On va dire. J'essaie de pas spoiler, mais
si vous deviez écrire une nouvelle édition de Fallout, histoire d'une mutation, création, univers et décryptage, qu'est-ce que vous ajouteriez un chapitre sur la série, un chapitre sur le Fallout 76, mais qu'est-ce que peut-être vous, maintenant que la série, grâce à ce qu'a fait Amazon Prime, prend une ampleur et touche un public qui ne jouera pas aux jeux vidéo, est-ce que vous voyez que pour la franchise, il y a une forme de peut-être renaissance, renouveau? Comment vous analysez les choses?
Alors, c'est prévu. Je vais écrire cette année pour sortir une version 2 du livre en attendant la saison 2. Il faut parler bien sûr de Fallout 76, qui est un petit peu un cas à part, mais qui est quand même très intéressant, parce que ça permet aussi de parler de la communauté qui a fait depuis des années un travail incroyable autour de cette saga.
Parlez-nous un peu de la communauté Fallout. C'est quoi? C'est un fandom spécial Fallout?
Oui, ce sont tous les gens qui sont fans de toute la série, avec chacun leur préférence bien sûr, et qui vont faire des conventions, qui font du cosplay, qui créent des accessoires. La série est fantastique au niveau des accessoires, même si les décors sont un peu petits parfois, ils sont très jolis, un peu petits, un peu fermés. Ils sont remplis de tous les détails de Fallout, d'accessoires qui sont vraiment fabuleux. Mais ça, la communauté le fait depuis des années. Et même, ils ont fait aussi leur propre série de fans qui sont parfois de très haut niveau. Il y en a une qui est même sortie à peu près au même moment que juste avant la série. En général, c'est des passionnés qui rajoutent un petit bout de lore. Et parfois, ce n'est pas une histoire officielle, forcément, puisque c'est des fans. Et c'est dommage, parce qu'ils font un tel travail que voilà, on peut pas les intégrer, mais il faut quand même en parler aussi, même au niveau des jeux, hein, y a le Fallout London qui devait sortir, qui est un énorme mod, c'est une modification générale de Fallout 4 pour créer une aventure inédite à Londres, et ça ils ont dû malheureusement le repousser parce que Bethesda a sorti sa mise à jour Next Gen qui a tout cassé malheureusement pour eux, donc on l'espère pour bientôt, et il va falloir parler de 76, il va falloir parler de la série, et il y a beaucoup de choses à dire, on a déjà abordé pas mal ici, mais il y a vraiment énormément de choses à dire, et voilà, ce sera déjà deux bons ajouts au livre. Le livre, je l'ai terminé en disant ils étaient à deux doigts de faire un excellent Fallout. Pour Fallout 5, malheureusement, ça va prendre du temps. C'est a priori très loin. On espère toujours quelque chose avant que ça arrive. Parce qu'il faut qu'ils fassent The Elder Scrolls 6, déjà. Donc ça va prendre des années avant qu'ils se lancent dans Fallout 5. Parce qu'il va prendre encore des années. Mais tout le monde espère toujours un New Vegas 2, hein, on ne sait jamais, on prie. C'est pas impossible qu'on ait un Fallout 3 remaster ou remake, ce qui serait plutôt sympathique, même si Bethesda n'a jamais vraiment réussi à faire un moteur correct, il y a toujours des problèmes. Ça serait pas mal de le mettre à jour, ce jeu, parce qu'il mérite quand même d'être redécouvert. C'est Fallout 3, c'est un peu le Star Wars 7 de la Sega. C'était un truc qu'on a déjà vu, mais quand même bien.
Ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous, Erwan Lafleuriel, d'être venu sur le podcast et d'être venu nous parler de Fallout. On rappelle qu'on peut lire votre essai, qui est très intéressant et qui retrace évidemment une grande partie de la création de Fallout. Ça s'appelle Fallout, histoire d'une mutation, création, univers et décryptage. C'est sorti en 2017 chez Sœur d'édition, un éditeur évidemment qu'on connaît bien et on aime inviter les auteurs de Sœur d'édition sur notre podcast. Et j'espère que vous reviendrez soit nous parler de la série saison 2 ou soit pour un prochain Fallout sur le podcast, Erwan.
Avec plaisir.
Un grand merci à vous et puis à bientôt, Erwan.
À bientôt.